Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est presque 7h, 6h58 précisément sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous, on est ensemble jusqu'à 9h, mercredi 11 février 2026. Un congé universel de 9 mois pour les deux parents, rémunéré 80%, peut-être même, tiens, une proposition 250 € par enfant, quel que soit d'ailleurs le niveau de vie. Voilà, des propositions fortes pour tenter de relancer la démographie en France. Il n'y a jamais eu aussi peu de naissances depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut tout faire pour inverser la tendance, voilà ce que nous dira la présidente de la mission parlementaire sur le sujet. Elle sera avec nous à 7h10, mais je vous attends, vous aussi, au 32-16, bien sûr. Qu'est-ce qui ferait que vous osiez avoir un enfant de plus pour lequel vous avez peut-être renoncé? Est-ce qu'il y a... est-ce que vous auriez aimé avoir davantage d'enfants? Ou alors est-ce qu'au contraire, pas du tout, vous n'en voulez pas? Qu'est-ce qui bloque dans la natalité? Votre témoignage, évidemment, c'est le plus fort, c'est le plus intéressant de vous entendre. On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Notez aussi, tiens, qu'à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le ministre du Travail, et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou. Il veut s'attaquer à la fraude sociale. Frauder, c'est voler l'argent des Français, voilà ce qu'il répète. Il veut même peut-être que, en cas de suspicion de fraude, on puisse stopper toutes les allocs. Réponse donc à 8h30 de Jean-Pierre Farandou. Dans un instant, le journal de 7h. Excellent réveil à tous, il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le mariage aura duré 1 an et demi. L'OM et Roberto De Zerbi, c'est fini. Séparation d'un commun accord officialisé cette nuit. Le Quai d'Orsay rattrapé par l'affaire Epstein. Le nom d'un diplomate français apparaît dans les dossiers du pédocriminel cité à plusieurs dizaines de reprises. Le ministère des Affaires étrangères saisit la justice et une fusillade fait 9 morts et 27 blessés dans un établissement scolaire et ses environs au Canada.
L'OM n'a plus d'entraîneur ce matin.
Il semble déjà loin le temps où le président du club, Pablo Longoria, déclarait sa flamme à Roberto De Zerbi, lui souhaitant une carrière dans la durée au sein du club. C'était fin janvier, 2 semaines plus tard. Après une élimination en Ligue des Champions et un revers historique face au PSG, l'aventure de l'entraîneur italien à Marseille a pris fin. RMC vous le révélait dès hier soir, le club l'a officialisé, Florent Germain, au cœur de la nuit.
Oui, De Zerbi et l'OM, une histoire passionnée et mouvementée. Dans le communiqué qui a acté son départ cette nuit, le club olympien a tenu à remercier le coach italien pour son investissement et pour la deuxième place obtenue la saison passée. Mais entre quelques clashs avec ses joueurs ou des stages à Rome pour souder le groupe, le management de De Zerbi a pourtant fait des étincelles. Il confiait souvent que Marseille et l'OM étaient pour lui l'endroit idéal par sa ferveur et sa pression. Mais le fiasco de Bruges en Ligue des Champions, la claque au Parc des Princes dimanche et les tensions dans le vestiaire ont scellé son sort. L'OM évoque une décision collective difficile pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. Oui, Marseille peut encore accrocher le podium et gagner la Coupe de France. Reste à trouver l'entraîneur qui relèvera ce défi.
Et en attendant, c'est une solution provisoire interne au club qui devrait être privilégié pour le match face à Strasbourg samedi, 17h en Ligue 1.
RMC 7h02, le Quai d'Orsay secoué à son tour par l'affaire Epstein.
Un dossier tentaculaire. Depuis la révélation de 3 millions de nouveaux documents en fin janvier dans lequel apparaît le nom d'un diplomate français, Fabrice Hédan, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot va saisir la justice afin de lui signaler des faits présumés. Même si à cette heure, Martin Bourdin, aucun lien n'est établi entre les crimes du sexuel du financier américain et le diplomate, si ce n'est ces échanges de mails que vous avez fouillés pour RMC.
Cette année de correspondance numérique de 2010 à 2017, quelques documents, rapports diplomatiques envoyés par Fabrice Hédan à Jeffrey Epstein, mais surtout beaucoup de services rendus par le diplomate français qui échange directement avec le pédocriminel américain déjà inscrit à l'époque sur la liste des délinquants sexuels. Fabrice Hédan lui trouve par exemple la pointure d'un diplomate norvégien à qui Epstein veut offrir des chaussures. Il tente d'aider l'une de ses connaissances à obtenir un visa à la demande du milliardaire. Lui arrange aussi des rendez-vous, notamment à son appartement parisien. Il avait d'ailleurs obtenu au profils d'échanges de mails, le code d'entrée du logement. Des transactions financières de plusieurs dizaines de milliers de dollars sont aussi évoquées, sans aucun lien direct avec les crimes sexuels de Jeffrey Epstein. Mais cette proximité révélée a poussé le groupe Engie, où Fabrice Eden exerçait encore des fonctions, à le suspendre dès hier soir.
Et dans ce même dossier, une femme a déposé plainte hier à Paris pour viol et trafic d'êtres humains contre Daniel Siad, un chasseur de mannequins soupçonné d'avoir recruté de jeunes femmes pour le compte de Jeffrey Epstein. L'ancien footballeur Franck Ribéry, également cité à 6 reprises dans le dossier, annonce lui porter plainte. Retrouver de potentielles victimes, c'est l'objectif de la justice qui lance un appel à témoins et révèle le nom d'un septuagénaire, Jacques Leveugle, écroué en 2024 pour viol et agression sexuelle sur 89 mineurs pendant plus de 60 ans dans plusieurs pays du monde. Il est également accusé de meurtre sur sa mère et sa tante. Le premier ministre canadien, Mac Carney, se dit bouleversé ce matin après une fusillade qui a fait 9 morts et 20 de blessés dans le nord-ouest du pays, en Colombie-Britannique. Le drame s'est en partie déroulé dans un établissement scolaire, Romain Houga.
Oui, un collège-lycée de Tumbler Ridge, une petite ville au pied des montagnes rocheuses canadiennes, à peine 2300 habitants. Il est un peu plus de 13h lorsque la police reçoit les premiers signalements faisant état d'un tueur actif dans l'établissement. Quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre interviennent et découvrent sur place les corps de 6 victimes dont on ne connaît pas pour leur l'âge ou l'identité. Une 7e meurt lors de son transport à l'hôpital. 27 autres ont été blessés. Le corps de l'auteur des tirs est retrouvé au sein de l'établissement scolaire, visiblement décédé après une blessure auto-infligée, dit la police. Un peu plus tard dans l'après-midi, un second lieu présumé lié à la tuerie est retrouvé par les autorités. Une résidence située non loin de là où 2 autres personnes sont retrouvées mortes. On ne connaît toujours pas à cette heure l'identité ou le mobile du suspect. Certains médias locaux parlent d'une femme, mais la police n'a pas confirmé pour l'heure cette information.
Elle est au cœur des préoccupations de nos politiques. La crise de la natalité avec un taux de fécondité au plus bas depuis un siècle. Le sujet fait l'objet d'une mission d'information. Ses conclusions seront dévoilées cet après-midi. Mais dès ce matin sur RMC, on vous révèle ses premières pistes. À commencer, Bérangère Bocquillon, par la création d'un versement familial universel.
Oui, 250 euros par mois pour chaque enfant, sans condition de ressources. Car pour être efficace, la politique familiale doit être lisible, explique le rapport. Autre proposition, un congé de naissance de 9 à 12 mois ouvert aux deux parents, pendant lequel ils pourraient toucher jusqu'à 80% de leur salaire. Car c'est avant tout de temps dont manquent les parents. Autre frein à la natalité, le logement. La mission recommande donc la création d'un prêt à taux zéro famille de 100 000 euros accessible dès la déclaration de grossesse. Le désir d'enfant en France est l'un des plus élevés d'Europe, rappelle le rapport. Notre politique familiale doit viser à ce que ce désir se réalise.
Et je vous attends au 32-16. Qu'est-ce qui vous a bloqué dans votre désir d'enfant? Est-ce que l'une de ces propositions, les 250 euros par enfant, par exemple, le prêt à taux zéro, aurait pu ou pourrait vous faire franchir ce pas? Appelez-nous au 32-16.
Après 4 semaines de procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, place aux dernières plaidoiries des avocats de Marine Le Pen. Aujourd'hui, elle connaîtra dans la foulée la date à laquelle sera rendue la décision de la Cour d'appel de Paris, probablement cet été, décisive pour l'avenir politique de Marine Le Pen. Une 3e médaille pour le clan tricolore au jeu de Milan Cortina.
RMC, RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
Et c'est la 2e pour le biathlon français. Éric Perrault est allé chercher l'argent sur le 20 km hier sous les encouragements de ses proches, nombreux à avoir fait le déplacement pour l'occasion. Maria Azé.
Au milieu des fans étrangers, impossible de passer à côté.
Perrault, champion, le reste est du Milan.
Ce sont les amis d'Éric Perrault, tous ont une coupe mulet faite après la médaille d'or sur le relais mixte dimanche. Et en cas de nouveau titre pour le français...
Là, il n'y a pas de choix, c'est la boule à Z.
Logé dans une maison réservée par le biathlète, le groupe a composé une chanson pour l'occasion.
Éric Perrault, il est sur la piste, il est vraiment trop beau.
Et même en pleine course, Éric Perrault savoure l'ambiance.
C'est des fous, ils sont tout le temps là. J'ai un entourage qui est magique, franchement, que ce soit mes amis qui viennent de loin, toute ma famille qui est là, j'ai tellement de la chance. C'est là où prend la dimension olympique aussi dans ce partage finalement. Ça amène une autre saveur complètement différente que quand je suis tout seul. Grand merci à eux, c'est aussi grâce à eux que je peux être là et savourer autant.
Vice-champion olympique de l'individuel hier, Perrault donne un peu de sursis à ses amis d'enfance.
Pour l'instant, on garde nos cheveux, mais j'espère que vendredi soir, je suis lisse.
Éric Perrault aura 2 nouvelles chances de s'imposer avec le sprint vendredi, mais surtout la poursuite dimanche.
La champion, notre fierté.
Et nouvelle chance de médaille aujourd'hui pour le biathlon français avec Lou Jean Monod. On suivra aussi Perrine Laffont, qualifiée pour la finale de ski de bosse. Et puis vous vivrez ce soir sur RMC Radio Officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina la quête d'une médaille d'or pour Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry engagés sur le programme libre en danse sur glace, passage aux alentours de 22h40. Le duo français est en tête après la première épreuve de lundi.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08. Thibaut, vous parliez justement à l'instant des propositions remises par un duo de députés pour tenter de relancer la natalité en France. On en parle avec Dimitri qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Dimitri.
Oui, bonjour Apolline, bonjour.
Dimitri, vous appelez du Puy-en-Velay en Haute-Loire. Vous avez deux enfants, c'est ça?
Oui, c'est ça, deux enfants, tout à fait, qui ont 6 et 8 ans. Oui.
Et vous avez deux enfants, vous en vouliez deux? Vous en auriez voulu plus ou non?
Non, deux,
vous êtes bien comme ça.
Ça me convenait très bien, tout à fait.
Parce qu'effectivement, on a vu que l'écart entre le désir d'enfant et le nombre d'enfants véritablement pour chaque couple était le plus élevé, cet écart, de tous les pays d'Europe. Et il y a aujourd'hui de moins en moins de bébés. Donc ces aides qui sont proposées, est-ce que vous vous dites on a besoin de ça ou vous vous êtes débrouillé sans?
On s'est débrouillé sans, on se débrouille sans, voilà. Dans notre schéma familial, c'était ce qui nous correspondait le mieux. Maintenant, effectivement, moi, ce qui m'interpelle, c'est dans les conversations qu'on a au quotidien. Il y a des choses qui se disent dans la croyance populaire, et d'ailleurs, c'est peut-être pas qu'une croyance, c'est que deux enfants, ça vaut pas le coup, il faut faire le troisième, c'est là où on commence à s'y retrouver financièrement. Alors, ça, pour moi, c'est une aberration, parce qu'on arrive dans un schéma où maintenant, il va falloir faire des enfants pour s'en sortir. Je sais pas, c'est quelque chose que je comprends pas trop. Il y a autre chose que je remarque, c'est que lorsqu'on parle de place en crèche, par exemple, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, les places en crèche, effectivement, elles sont prioritaires pour des personnes qui sont à la recherche d'emploi. Et puis lorsque, comme nous, on est deux parents qui travaillons tous les deux, on n'est pas prioritaire, alors qu'on en a besoin autant que les autres. Donc, il y a des critères, en fait, entre les aides qui sont apportées et les situations qui, pour moi, ne sont pas du tout cohérentes.
Alors, justement, d'ailleurs, parmi les propositions des députés, et l'une des deux députées sera avec nous à 7h40 sur RMC, l'idée, c'est précisément de retrouver des aides qui soient plus universelles. C'est-à-dire que les aides avant, en gros, on considérait qu'un enfant qui naît, ou qu'il naît, c'est dans quelque milieu social ou économique, était à apporter le même genre d'aide. Aujourd'hui, elles sont beaucoup sous conditions de ressources. Vous, vous dites, un enfant, vous auriez aimé avoir aussi une place en crèche ou avoir une priorité également pour ça?
Tout à fait. Ça nous faciliterait notre quotidien. Par exemple, encore une fois, avec ma conjointe, on travaille tous les deux. Maintenant, ils sont scolarisés. La crèche s'est terminée. Ouais. Ils sont scolarisés. Pour la cantine, on paye le plein tarif plein pot. Donc, malheureusement, on est dans la classe moyenne. Donc, on se débrouille pour les mettre le moins possible. Là où on constate au quotidien qu'on a des parents qui arrivent le matin en pyjama et qui reviennent les chercher le soir en pyjama. Les enfants mangent à la cantine. Et nous, on fait l'effort de ne pas les faire manger à la cantine parce que sinon, à la fin du mois...
Sous-entendu, eux ne bossent pas, vous travaillez. Oui, et effectivement, vous êtes obligés de payer plein pot parce que c'est sous condition de ressources. Au fond, vous dites un peu ce que nous disait un auditeur hier qui nous expliquait qu'il avait quand même le sentiment que c'était toujours ceux qui bossaient, effectivement, qui avaient le moins d'aide. En tout cas, Dimitri, merci pour votre témoignage. Dimitri, papa de deux enfants, donc au Puy-en-Velay, vos témoignages. Dites-nous ce qui vous a éventuellement retenu d'avoir peut-être un enfant de plus, si vous aviez envie de cet enfant. Qu'est-ce qui vous a retenu? Appelez-nous au 32-16. Il est 7h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Souvenez-vous ce que disait Emmanuel Macron lundi à propos de l'affaire Epstein. C'est une affaire qui concerne surtout les États-Unis d'Amérique. Bonjour Mathias Darmon. Vous êtes l'avocat de l'association Innocence en danger. Vous réclamez depuis des années que la justice française enquête sur les crimes commis par Jeffrey Epstein sur notre territoire. Il venait 12 fois par an en France. La lumière doit être faite sur le volet français, c'est votre parti pris ce matin et vous nous le dites dans un instant, il est 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Est-ce que vraiment ça n'est qu'une histoire américaine? Et la justice française doit-elle enquêter et ouvrir une enquête sur l'affaire Epstein? Bonjour Mathias Darmon, vous êtes avocat de l'association Innocence en danger. Dès 2019, votre association elle a reçu des témoignages de victimes du prédateur américain. Pourquoi rien n'a bougé depuis?
Bonjour, merci pour votre invitation. Écoutez, nous, ça fait effectivement depuis plusieurs années que l'association demande à ce que le parquet de Paris, que les services de l'instruction aussi de Paris se mobilisent pour retrouver des victimes, pour retrouver des personnes qui seraient mises en cause dans ce dossier. Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que j'ai l'impression que ça reste pour l'instant enfoui sous les radars, et on se rend bien compte que la révélation des différents documents récemment a sans doute permis de faire bouger les lignes, et nous espérons très fortement qu'il y ait des enquêtes, plusieurs enquêtes qui soient mises en place par le parquet de Paris.
Plusieurs enquêtes, et que le parquet de Paris s'en saisisse. Il y a un volet financier, il y a eu l'ouverture d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale à l'encontre de Jack Lang et de sa fille Caroline. Il y a le volet désormais aussi diplomatique, puisque l'on a appris hier que Fabrice Hédan, un diplomate français, était à de nombreuses reprises cité dans les documents Epstein. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé cette nuit saisir la justice. Et puis, il y a le volet pédocriminalité, traite d'êtres humains. Mmh. Une première plainte a été déposée hier.
Oui, oui. Je pense qu'il faut de toute façon une prise de conscience collective, qu'elle soit médiatique, et là vous le faites régulièrement sur vos antennes. Il faut une prise de conscience judiciaire, une prise de conscience politique aussi. Et là, c'est en train tout doucement de se mettre en place. Et le volet pédocriminel de ce dossier-là est immense. C'était un réseau qui était mis en place par Monsieur Epstein et ses collaborateurs à Paris, en France, et bien évidemment que la justice française est compétente pour gérer ce type d'affaires.
Il y a évidemment le territoire français. Il faut préciser que Jeffrey Epstein n'avait qu'un seul autre pays que les États-Unis où il possédait une propriété. C'est la France, c'est Paris. Cet appartement avenue Hoche où il passait beaucoup de temps tout au long de l'année. Il venait au moins 12 fois par an, régulièrement. Il s'est passé, pensez-vous, des choses sur le sol français?
Oui, c'est une certitude. De toute façon, l'association Innocence en danger avait reçu des témoignages dès 2019 de jeunes filles, parfois très jeunes d'ailleurs, qui évoquaient avoir été victimes de faits délictuels et criminels par Monsieur Epstein et toutes les personnes qui l'entourent. Donc oui, maintenant, charge à la justice et aux services de police, aux enquêteurs, aux juges d'instruction, de retrouver ces victimes, de retrouver les mises en cause, pour qu'enfin, c'est tellement long, que les victimes soient entendues.
On a découvert hier le nom d'un rabatteur présumé qui serait sur le sol français. Il s'appelle Daniel Siad. Son nom revient de très nombreuses reprises dans des échanges avec Jeffrey Epstein. Des échanges dans lesquels il parle de jeunes femmes. Lorsqu'elles ont, pour certaines, 25-26 ans, Jeffrey Epstein répond à cet interlocuteur, ce fameux Daniel Siad. « Ah mais ça, c'est pas pour moi, cet âge-là. » Mmh. Il lui envoie par ailleurs des photos de jeunes femmes. Il parle d'une jeune femme française, 22 ans à l'époque, qui travaillait sur les Champs-Élysées. Il apparaît clairement comme un rabatteur. Cet homme n'a jamais été approché ou entendu par la justice française.
Oui, et ça démontre là aussi le peu d'implication dans cette affaire-là par rapport à la justice française. Et donc, il était temps qu'on s'intéresse à ce type d'individu, à l'entourage de Monsieur Epstein. C'est un parmi sans doute des dizaines et des dizaines de pédocriminels qui venaient régulièrement rencontrer Monsieur Epstein, qui venaient dans cet appartement avenue Foch et qui profitaient de jeunes filles qui étaient mineures et qui étaient dans un état de vulnérabilité absolue.
Il y a une sorte de triangle, et c'est ce qu'on découvre, entre Jeffrey Epstein, Jean-Luc Brunel, le patron à l'époque d'une agence de mannequins qui depuis s'est suicidé, et ce fameux Daniel Siad. Je précise que cette femme qui a porté plainte hier, elle est suédoise, elle a 56 ans, elle a porté plainte contre Daniel Siad pour viol et traite d'êtres humains auprès de la justice française. Cette femme, j'ai pu m'entretenir et l'interviewer ce matin à 6h du matin, c'est-à-dire à minuit, heure américaine. L'entretien sera diffusé à 9h en intégralité. Elle raconte des scènes qui ont eu lieu sur BFM TV. Elle raconte des scènes avec des jeunes femmes, probablement issues des pays de l'Est, qui ne parlaient pas un mot de français, dans l'entourage de Daniel Siad. Ce fameux Daniel Siad, ça renseigne sur les gens dont s'entourait en France Jeffrey Epstein.
Je crois tout d'abord qu'il faut saluer le courage de cette femme qui vous a parlé. On dit régulièrement qu'il faut que la parole des victimes se libère, mais pour qu'elle se libère, il faut qu'elle ait confiance en la justice française, qu'elle ait confiance envers les procureurs, envers les juges d'instruction. Et c'est absolument pas le cas aujourd'hui, et c'est pour ça que leur parole est aussi difficile à récolter.
À suivre donc peut-être l'ouverture d'une enquête par le parquet. En tout cas, c'est ce que vous demandez ardemment. Mathias Darmon, avocat de l'association Innocence en danger, merci d'être venu ce matin. Et je vous donne rendez-vous donc à 9h également sur BFM TV pour le témoignage de cette première plaignante qui porte donc plainte au parquet en France. 7h21, Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, un athlète ukrainien s'oppose au Comité international olympique parce qu'il veut afficher sa solidarité avec ses compatriotes qui sont morts sur le front. C'est une histoire qui vous en a rappelé d'autres.
Ah oui, les JO se disaient politiques, mais dans les faits, le sport, c'est toujours politique. Hein, des JO de Berlin en 36, au mouvement Black Power, les athlètes utilisent leur statut pour faire passer des messages.
Vous nous le dites dans un instant, il y a aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes, il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et on va remonter le temps. Comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Arthur, le porte-drapeau de l'équipe ukrainienne est au cœur d'une polémique au JO d'hiver. Malgré l'interdiction du Comité international olympique, il affirme qu'il portera un casque sur lequel seront imprimées des photos de victimes de la guerre en Ukraine.
Oui, dans une conférence de presse hier, Vladislav Eraskevich assure qu'il portera bien son casque en hommage aux sportifs morts sur le front ukrainien. L'athlète est engagé dans l'épreuve de skeleton. Le skeleton, c'est une sorte de luge. Et il affirme qu'il portera ce casque lors des essais, mais aussi lors de la course. De son côté, le CIO a lui rappelé que les expressions politiques lors des compétitions sont interdites. C'est le règlement. Lundi, le sportif ukrainien a même reçu le soutien de son président, Volodymyr Zelensky.
Ce n'est pas la première affaire où le sport et la politique sont mêlés. Hein.
Oui, les sportifs, ce sont des célébrités, qu'on le veuille ou non. Donc, elles incarnent quelque chose de politique. Prenez l'Italie quand elle était gouvernée par Mussolini. Tous les sportifs devaient faire la promotion du fascisme. Par exemple, à la Coupe du Monde de football de 1938, l'Italie est en finale et au lieu de leur deuxième maillot habituel, qui est le blanc, les Italiens portaient un maillot noir. Pourquoi noir ? Eh bien parce que le noir, c'était la couleur officielle des fascistes. Et d'ailleurs, avant les matchs, les joueurs devaient aussi faire le salut fasciste.
Les JO ont eux aussi été évidemment très marqués par la politique.
Et oui, avec des moments mémorables. En 1936, les JO ont lieu à Berlin, dans l'Allemagne nazie, dirigée par Adolf Hitler. Hitler qui considérait que la race blanche était naturellement supérieure à toutes les autres, sauf que, pas de chance, pendant ces JO de Berlin, eh bien c'est un Afro-Américain, Jesse Owens, qui va rafler les médailles d'or des épreuves reines, le 100 mètres et le 200 mètres. Tout ça sous les yeux éberlués de Hitler en tribune. Les théories racistes des nazis étaient donc démenties par les faits devant le monde entier.
La question de l'égalité raciale sera aussi au cœur des JO de 68.
Oui, et ça se passait à Mexico. C'est la finale de 200 mètres. La médaille d'or et la médaille de bronze sont remportées par des Afro-Américains. Leur nom, c'est Tommy Smith et John Carlos. Après la course, ils montent sur le podium et ils brandissent un poing recouvert d'un gant noir en direction du ciel. Un geste de solidarité au mouvement Black Power aux États-Unis. L'image entre naturellement dans la légende du sport.
Et puis le mouvement Black Lives Matter.
Oui, un mouvement spontané qui a pris beaucoup d'ampleur après la mort de George Floyd, cet homme noir assassiné par la police américaine en 2020. Là encore, c'était contre le racisme et les violences policières. Et le geste de ralliement, souvenez-vous, c'était de poser un genou à terre avant les épreuves sportives. Le mouvement se propage d'abord aux États-Unis, dans le football américain. Il s'étend ensuite au basket, en NBA, au football en Europe et même en F1.
Arthur Chevalier, l'historien sportif d'Apolline Matin. Si vous voulez réécouter la chronique d'Arthur, c'est évidemment à tout moment en podcast sur l'application ou le site rmc.fr. Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Arnaud, dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou.
Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vous parle en direct de Bruxelles, figurez-vous, pour vous parler de Jean-Pierre Farandou. Un nom presque sympa, Jean-Pierre Farandou. C'est quasi farandole, on est presque sur du festif. C'est comme s'il s'appelait Jean-Pierre Tourner les Serpettes. Vous voyez, on n'est pas loin, mais on n'est pas dedans. Et d'ailleurs, il vient pour du sérieux, car les chiffres du chômage sont en hausse, surtout chez les jeunes. Voilà, ça c'est normal. Tout le réseau d'Epstein démantelé, ça fait des dégâts, parce que ça faisait travailler du monde cette histoire. Toutes les filières OnlyFans, mime, ministrelubrique.fr, rencontre chez woodyallen.gouv.com/jack/jacuzzi, adopte un môme, cm1coquin.com, tout ça. Et le chômage des adultes, c'est pas mieux. Sonia Mabrouk, virée. Morandini, virée. Philippe Bilger, viré. Bolloré, il a fait augmenter le chômage de 4% à lui tout seul. Bravo le capitaine d'industrie. Alors c'est con, Jean-Pierre Farandou, il est ministre du Travail depuis novembre et le chômage augmente déjà alors qu'il était stable depuis des années. On aurait dû le mettre à la croissance, Jean-Pierre. Hein. Mmh. C'est ça qu'on aurait dû faire. Ou le mettre à la natalité. On galère avec ça. Jean-Pierre a un projet de lutte contre la fraude sociale. Donc, il a annoncé un contrôle des relevés téléphoniques des chômeurs. Et je peux vous dire que ça a gueulé hein, chez Jean-Marc Morandini et Jack Lang. Ils ont dit, mais on est au chômage depuis pas longtemps, nous, merde. Vous n'allez pas vous mettre à contrôler nos téléphones maintenant. Ça sert à rien. De un, vous allez rien trouver. Et de deux, tout ce que vous allez trouver, je l'assume et c'est normal.
Voilà.
Et puis, surtout, Apolline, alors faites-moi plaisir, est-ce que Jean-Pierre Farandou était à la soirée qu'Emmanuel Macron a donnée pour récompenser ses premiers fidèles lundi? Tiens, je vais vous donner la liste des fidèles avec un intrus, on va faire un jeu, est-ce que vous pourrez le trouver? Attention, étaient invités Olivier Dussopt, Stanislas Guérini, Julien de Normandie, Stéphane Séjourné, Benjamin Griveaux, Timothée Chalamet. Ah, vous l'avez?
Je
l'ai. Pas facile, hein?
Je l'ai.
Attention.
Timothée Chalamet.
Dur. Bah ouais. Bon, donc, très peu de paparazzi à cette soirée. On va pas se mentir. C'était un peu la soirée radio nostalgie. Sauf qu'on ressentait aucune nostalgie, en fait. Et, vous avez vu ce truc? Il a récompensé Stanislas Guérini et Olivier Dussopt de la Région d'honneur. Il a dit, Stanislas, je suis heureux de te remettre cette décoration.
Non, moi c'est Olivier, Stanislas c'est le chauve là-bas.
Ah bon? C'est pas Stéphane Séjourné lui? Bah non, Stéphane Séjourné c'est moi. Mais toi t'es pas Olivier Dussopt? On m'a aussi parlé d'un Julien qui vient de Normandie. Il est où celui-là? C'est qui? Voilà, Jean-Pierre Farandou qui veut lutter contre la fraude. Je veux pas lui dire comment faire son boulot, mais on pourrait déjà commencer par la Légion d'honneur de Stanislas Guérini en termes de fraude. Donc faudra lui poser la question. Hein. Je compte sur vous, Apolline. Je vous embrasse tous. À
merci,
tout à l'heure.
Merci Arnaud Demanche, donc en direct de Bruxelles. Arnaud, on vous retrouve tout à l'heure à 8h20. Il est 7h28.
Détendez-vous sur RMC avec EPSI, une école du réseau compétences et développement.
Dans un instant, la météo et le journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les jours passent et se ressemblent dans le sud-ouest où il pleut quasiment sans discontinuer depuis près de 3 semaines et ça va se poursuivre. En Ariège, les cours d'eau menacent de déborder. Il a abusé d'au moins 89 mineurs en toute impunité durant plus de 50 ans. 2 ans après son arrestation, la justice lance un appel à témoins pour retrouver les victimes du violeur en série Jacques Leveugle. Et puis mieux vaut prévenir que guérir, c'est la philosophie du nouvel arsenal anti-faillite d'entreprise du gouvernement.
La pluie s'installe sur une bonne partie de la France.
Toute la façade ouest est sous l'eau, un phénomène important, généralisé et durable selon Météo France qui s'inquiète de l'enchaînement de ces épisodes pluvieux sur des sols déjà gorgés d'eau. Ce matin, 13 départements sont en alerte orange au cru et notamment l'Ariège où l'on retrouve notre envoyé spécial Jean-Wilfried Forquès en direct pour RMC. Jean-Wilfried, à Lézade-sur-Lèze où vous vous trouvez, le niveau de la Lèze monte à vue d'œil ce matin.
Oui, 1,30 m pour la Lèze hier matin. Ce matin, nous sommes à plus de 6 mètres, Élise. La crue est impressionnante ici. Alors, on est loin, certes, du record enregistré en 2000, où elle avait atteint un peu plus de 7 mètres, 7 mètres 23. Ce qui est sûr, vous le disiez, c'est que les cumuls de pluie sont absolument gigantesques depuis quelques semaines. Il est tombé ici, en l'espace de 3 semaines, l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie. Je suis, par exemple, en ce moment, dans une entreprise ici, d'horticulture. Nous sommes à proximité des serres de Benjamin, des serres qui ce matin sont sous l'eau, 7000 mètres carrés de serres sous l'eau, parce que les pluies ont été torrentielles ces derniers temps. Alors évidemment, Benjamin est un petit peu désemparé, il a l'habitude certes des pluies, mais ce matin c'était un spectacle de désolation pour lui. Il a lancé des appels à l'aide sur Facebook, il attend évidemment dans les prochaines heures la venue des pompiers, et puis arrivera une étape décisive, hélas souvent compliquée, appeler les assurances.
Jean-Wilfried Forquès en direct de Lézade-sur-Lèze pour RMC. Les perturbations vont se poursuivre avec l'arrivée de la tempête Niels qui va balayer l'ouest de la France la nuit prochaine avec des rafales attendues jusqu'à 140 km/h sur le littoral aquitain et charentais, 110 dans les terres du sud-ouest. Il est 7h33 sur RMC. Il était encore complètement inconnu du grand public hier et il est désormais considéré comme l'un des plus grands violeurs en série français. Jacques Leveugle, l'ancien ancien éducateur de 79 ans accusé d'avoir fait au moins 89 victimes mineures sur 5 continents différents et dont l'identité a été révélée hier par le procureur de Grenoble, 2 ans après son arrestation et son placement en détention. L'objectif, c'est de retrouver toutes ces victimes, car il y en a d'autres, d'après les mémoires qui ont été retrouvées à son domicile, Vincent Chevalier.
Tout commence en 2022 à Visil, en Isère, où réside le frère du mis en cause, qui rend régulièrement visite à sa famille. Progressivement, son neveu a des soupçons. Il se questionne sur les préférences sexuelles de son oncle. Un jour, il profite de son absence pour fouiller ses affaires. Étienne Manteau, procureur de Grenoble.
Il va exploiter les clés USB qu'il retrouve dans la chambre de son oncle et va découvrir des mémoires, beaucoup de documents, des photographies, mais surtout des documents écrits. En tout cas, il constate qu'il y a des choses manifestement répréhensibles.
L'analyse de ces mémoires écrites par le septuagénaire permet aux enquêteurs de recenser 89 victimes dans 8 pays entre 1967 et 2022.
Il s'agit essentiellement d'évocations, de rapports sexuels avec des mineurs de 13 à 17 ans.
Aujourd'hui, seule une quarantaine de victimes a été identifiée, d'où cet appel à témoins. La justice invite tous ceux qui ont connu Jacques Leveugle à se manifester pour faire avancer l'enquête.
Nouvelle agression antisémite à Paris, où un adolescent de 13 ans a été pris pour cible lundi soir alors qu'il portait sa kippa à la main, dépouillé par plusieurs individus dans le 18e arrondissement de la capitale. Pour l'heure, seul un suspect de 18 ans a été interpellé. 7h35, comment lutter contre la vague de faillites d'entreprises qui frappe la France? 2025 a été une année record avec une hausse de 3,5% des procédures. Le gouvernement a donc décidé de prendre le taureau par les cornes avec une charte de confiance qui associe plusieurs acteurs, banquiers, assureurs, URSSAF, tous pour détecter au plus tôt les premiers signes de mauvaise santé des entreprises. Le but, Rachel Sadodine, c'est de venir en aide à des patrons qui précisément ont beaucoup de mal à demander de l'aide.
Confronté à des difficultés de trésorerie il y a 3 ans, Luc, patron d'une petite entreprise de BTP, s'enferme. Il vit la situation comme un échec personnel et n'ose en parler à personne.
Je me sens mal, je me sens triste, je me sens seul puisque on n'aime pas raconter à nos pères ce qui se passe, quel va être le regard des autres. On a une très grande fierté. On se dit, c'est un peu la honte de me demander de l'aide, en fait.
Résultat, une faillite et 25 salariés sur le carreau. Cette situation, Paul l'a lui aussi connue et pourtant l'entrepreneur n'avait pas hésité à demander de l'aide.
Évidemment, aux banques en premier, de pouvoir retarder les prêts, mais nous, on n'a rien obtenu. Moi, mon couple a failli voldinguer parce que c'est des moments très difficiles que les autres ont du mal à comprendre. On n'a plus rien, on se retrouve vraiment à poil. Faut tout payer soi-même, le psy, faut se relancer tout seul et c'est franchement difficile.
Fort de son expérience, Paul conseille aujourd'hui des entrepreneurs. Il voit d'un bon œil la nouvelle charte du ministère du Commerce, car la solution, selon lui, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise tout au long de leur parcours.
7h36 et déjà 3 médailles au compteur pour la France aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
3e médaille décrochée hier par Éric Perrault sur l'argent en biathlon dans l'épreuve du 20 km individuel. Aujourd'hui, place aux femmes sur l'individuel 15 km, une course que vous allez suivre sur place pour RMC, Julien Richard, avec tous les regards braqués sur la leader des Bleus, Lou Jean Monod.
Allez Lou !
Oui, Éric Perrault à peine descendu du podium hier, les supporters français s'échauffent déjà pour Lou Jean Monod.
Elle va gagner, c'est sûr.
Ouais, grande favorite.
Comme Éric Perrault, Lou Jean Monod a débarqué en Italie avec le statut de numéro 1 mondial.
Je suis en tête de la Coupe du Monde actuellement, mais factuellement, ce n'est que ça. Ça prédéfinit pas les résultats. Je suis même pas sûr que ça fasse peur aux autres.
Et patente avec le relais mixte champion olympique dimanche, Lou Jean Monod doit pourtant toujours lutter contre son stress. Son entraîneur Cyril Burdet.
Lou est quelqu'un qui est plutôt anxieuse, qui envisage l'avenir régulièrement sous le mauvais angle pour ne pas être vu du mauvais côté. Une fois qu'on a compris ça, il n'y a pas de souci.
Alors la doubiste fait le tri dans ses émotions.
La peur qui fait peur. Tout bien séparé et tout bien rangé, ça me permet de dire ok, ça vient de moi, j'ai la maîtrise, ça vient pas de moi, j'en ai pas la maîtrise. Et puis à un moment donné, l'excitation qui fait partie de cette pression, j'ai envie aussi d'en profiter, qu'elle me serve pour faire des belles courses et donner encore plus.
Lou, Lou,
et embarquer
Lou,
avec elle les supporters pour fêter
Lou,
une nouvelle médaille dans ces Jeux Olympiques.
Lou, Lou, Lou.
En football, l'OM et son coach Roberto De Zerbi, c'est fini. Le club a confirmé cette nuit l'information qu'RMC vous révélait dès hier soir. Un peu plus de deux jours après l'humiliation au Parc des Princes face au PSG, reste désormais à lui trouver un successeur pour tenter de redresser la barre.
Et puis le quintet, Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 11, Jaifa de Liton. L'outsider, c'est le 6, Jazzman.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Relancer la natalité en France, permettre à chacun d'avoir autant d'enfants qu'il en désire. On vous en parle régulièrement sur RMC. Et c'est une mission d'information parlementaire qui fait aujourd'hui des propositions pour inciter les Français à faire des bébés. Bonjour Constance de Pélichy.
Bonjour.
Vous êtes députée UDI du Loiret, vous êtes présidente de cette mission. Vous proposez notamment un congé de naissance de 9 mois qui serait ouvert aux deux parents, de l'argent aussi pour chaque enfant qui naît. Est-ce que ça peut vraiment inciter les Français à s'y mettre? Non seulement je vous interroge dans un instant, mais j'aimerais vos témoignages au 32-16. Qu'est-ce qui vous permettrait d'avoir le déclic, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, vous ne souhaitez pas en avoir, et pourquoi? Dites-le nous au 32-16. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Tiens, si vous aviez pu, est-ce que vous auriez eu plus d'enfants? Et qu'est-ce qui vous a retenu d'en avoir davantage? Désormais, le gouvernement et les politiques veulent tout faire pour relancer les naissances en France. Et vous avez des propositions très concrètes, Constance de Pélichy, bonjour. Vous êtes députée UDI du Loiret, vous présidez cette mission d'information parlementaire sur la baisse de la natalité en France et vous remettez cet après-midi les conclusions de votre mission. Vous avez une série de propositions, lesquelles, pour vous, pourraient vraiment faire la différence?
Alors, déjà, remettre les choses dans leur contexte. L'idée n'est pas d'avoir une injonction à faire des enfants, mais plutôt de permettre aux Françaises et aux Français qui le désirent de pouvoir en avoir. Aujourd'hui, on a un désir d'enfant qui s'établit autour de 2,3 enfants par femme, et pourtant on est tombé à 1,5 enfants par femme en indice de fécondité. Donc l'idée, c'est bien de trouver des mesures qui permettent à ces Françaises et ces Français qui veulent des enfants de pouvoir les faire.
Qu'est-ce qui les retient justement d'avoir l'enfant en plus qu'ils auraient aimé peut-être avoir?
Alors, il y a une multitude de facteurs. Il y a des facteurs financiers et matériels, et d'ailleurs ça se voit très bien sur les courbes de fécondité. Les classes moyennes sont celles qui font le moins d'enfants, parce que ce sont celles pour lesquelles la pénalité financière est la plus élevée. Mais si on interroge au sens global, et ça ressortait énormément dans les auditions qu'on a pu faire passer, ça ressortait aussi dans la consultation citoyenne, 30 000 personnes ont répondu, la question du congé est fondamentale. Aujourd'hui, on a 5 congés, on bricole. Il y a le congé maternité, il y a le congé de naissance du père, il y a le congé paternité.
En fait, c'est illisible.
Il y a le congé parental. On sait même plus ce qu'on a comme congé, combien de jours on a, comment on les indemnise, comment on gère ça avec son employeur, etc. Donc, il faut une mesure simple, claire, lisible, un congé universel de naissance, répartissable entre le père et la mère, comme il le souhaite, sans injonction. L'idée, c'est d'être sur de la flexibilité, de la souplesse et une bonne rémunération. Moi, je propose 9 mois. Il y a différentes propositions sur la table.
9 mois qui seraient à répartir, par exemple, moitié pour la mère, moitié pour le père? Ou est-ce que ça peut être 9 mois plus 9 mois?
Non, 9 mois à répartir entre les deux parents. C'est d'ailleurs la durée de la totalité des congés parentaux en Espagne. Eux, ils sont à 19 semaines pour la mère, 19 semaines pour le père.
On peut pas dire que l'Espagne soit un modèle en termes de natalité. Hein.
L'Espagne est un pays qui tente de relancer sa natalité et de réinvestir ses politiques familiales après les avoir largement abandonnées pendant longtemps.
Ils font face à des grandes difficultés, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, et effectivement désormais nous, la France, qui pendant longtemps, au contraire, étions un pays où les femmes et les hommes avaient beaucoup d'enfants, plus en tout cas que la moyenne européenne. Je voudrais qu'on accueille Marie, qui voudrait témoigner, elle nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Marie, vous êtes vous-même infirmière libérale, je crois que vous êtes maman de deux grands enfants, et vous vouliez justement nous dire comment eux y vivent cette question.
Eh bien, assez compliqué. Disons que faire un des enfants, c'est prévoir son budget. Bon, voilà, comme on prend un appartement, on sait que des enfants, ça va coûter cher. Mais au-delà de l'aspect financier, il y a le côté psychologique où ils savent pas trop dans quel monde ils vont les élever, dans quel monde ils vont pouvoir les laisser quand ils seront plus là. Et ça les angoisse énormément, en fait.
Et donc, pour l'instant, ils n'osent pas ou ils ne veulent pas d'enfants, vos propres enfants, hein. Donc, Marie, qui ont, je crois, 30 et 28 ans.
30 et 28 ans, et pour le moment, je pense que j'en aurai un, et puis ça s'arrêtera là, quoi. Il y en a une, elle en veut pas, et parce que, en fait, ça la stresse de faire un enfant dans le monde dans lequel on vit, où on a des politiques qui savent pas se tenir, qui donnent pas l'exemple, et ensuite, où y a de la violence un petit peu partout, qui est pas forcément chez nous très importante, hein. C'est un petit village, nous, de 4000 habitants, c'est pas... Mais bon, les gens sont... C'est
agressivité. En fait, c'est l'angoisse.
C'est l'angoisse, l'inquiétude.
Et il y a cette question, ça c'est quand même très important ce que vous nous dites, Marie, c'est la difficulté effectivement à se projeter. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour vous interroger aussi là-dessus. Constance de Pellichy, vous l'avez peut-être vu, le maire de Cannes publie ce matin une tribune, David Lisnard, dans le Figaro, et il met en relation, et c'est vrai que la contradiction moi-même m'était apparue comme folle, le fait qu'on dise désormais aux jeunes, on va vous aider à avoir des enfants, c'est bien d'avoir des enfants, et puis ces manuels de biologie dans lesquels, lorsqu'ils étaient en terminale, on leur disait que pour sauver la planète, il ne fallait pas avoir d'enfants. C'est-à-dire, c'est quand même complètement délirant. On a dit à nos jeunes, quand ils avaient 18 ans, en fait, faut pas avoir d'enfants pour sauver la planète. Et aujourd'hui, on leur dit, faites des gosses.
Non, mais c'est ce qu'il y a dans ce manuel. Sincèrement, moi, j'arrive pas à le comprendre. On peut pas dire que les enfants sont responsables de la crise climatique qu'on traverse aujourd'hui, et c'est ce que revient à dire ce manuel. Donc moi j'ai du mal à comprendre qu'on n'ait plus
un manuel de SVT des éditions Nathan qui, graphique à la pluie, indique que la solution, je cite, la plus efficace et de très loin pour réduire son empreinte carbone, c'est de faire un enfant en moins.
Quel message d'optimisme, sincèrement. Après je rebondis sur les propos de votre auditrice
Marie.
La question de la confiance, elle est essentielle. C'est la confiance au sens large, la confiance dans les dispositifs qui vont vous accompagner, autant que la confiance dans le monde dans lequel on vit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les mêmes ressorts entre le premier et le deuxième enfant. La confiance dans le monde dans lequel on vit, avec ces crises climatiques, ces crises géopolitiques, ça joue beaucoup dans la capacité à se projeter tout court dans la parentalité et avoir un premier enfant. Après, c'est la confiance dans la capacité à subvenir aux besoins de sa famille.
Cette
pour
question
le deuxième
précisément,
enfant.
La question notamment de la crise immobilière. L'économiste Maxime Zbahi, qui est spécialiste des questions démographiques, met un lien direct pour lui entre crise immobilière et effondrement démographique. Il dit, au fond, la crise immobilière, c'est la première raison aujourd'hui pour laquelle les parents n'osent pas se projeter, les futurs parents n'osent pas se projeter. Ils n'ont tout simplement pas les moyens de se loger eux-mêmes, comment feraient-ils pour accueillir un enfant ?
Mais c'est logique. Si vous n'avez pas de chambre, pas de bébé. Enfin, c'est aussi simple et clair que ça. Or, 50% des 20-29 ans vivent encore chez leurs parents, faute de pouvoir se loger. Donc déjà, la construction du couple et de la famille, elle est compliquée. Et le prix des loyers comme de l'achat a doublé en 20 ans. Donc on n'a plus les moyens de se loger.
Comment on peut faire ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut un prêt spécifique pour les parents ?
Ça fait partie des mesures que je propose. Un prêt spécifique de la déclaration de grossesse aux 5 ans de l'enfant à hauteur de 100 000 euros pour acheter...
Un prêt à taux zéro ?
C'est un prêt à taux zéro, comme on le fait pour la rénovation énergétique et thermique. Ça permet quand même d'économiser des dizaines de milliers d'euros de frais bancaires et d'intérêts. Donc en termes de pouvoir d'achat, c'est considérable. Et ça permettrait aux gens de pouvoir construire leur foyer au sens propre du terme.
Une question aussi sur les modes de garde. Pouvoir dire aux femmes, vous n'aurez pas à choisir entre travailler et avoir des enfants. On va vous aider à pouvoir faire garder vos enfants. Il y a d'abord le problème de la place et puis le problème du coût. Et on parle toujours des places en crèche, mais ça coûte une fortune.
Non, mais c'est essentiel. Moi, je lâche.
Vous parliez des classes moyennes qui se retrouvent effectivement, c'est-à-dire ces gens qui travaillent et qui ne s'en sortent pas.
Ça, je le comprends parfaitement. Quand j'avais deux enfants gardés en maison d'assistante maternelle, ça me coûtait presque un SMIC par mois de garde d'enfants. Donc oui, c'est un budget considérable. Moi, je souhaiterais qu'on ait un reste à charge, c'est-à-dire que la famille ne paye que quelques centaines d'euros par mois, tout au plus, et par enfant. Et puis qu'on relance vraiment la construction de places en crèche et de maisons d'assistantes maternelles. Le département peut être un très bon interlocuteur là-dessus.
Merci Constance de Pellichy d'être venue à défendre donc vos propositions ce matin. Vous rendrez votre mission d'information cet après-midi. Vos conclusions, Constance de Pellichy, donc députée UDI de Loiret. Merci aussi à Marie pour son témoignage. La Voix de Droite est entrée dans ce studio. La Voix de Droite sur RMC ce matin. Attends, c'est vous, Jérôme Lavrieux. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Vous êtes ancien député d'ailleurs européen UMP. Amélie de Montchalin va être nommée aujourd'hui à la tête de la Cour des Comptes, une ministre macroniste nommée à un poste stratégique par Emmanuel Macron. Ça vous choque ou pas ?
Non, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, moi, c'est l'hypocrisie de cette classe politique et je vais vous le démontrer dans quelques secondes.
Vous nous le dites dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, l'hypocrisie de nos politiques avec la voix de droite. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec le retour d'Angèle.
La chanteuse belge qui annonce un nouveau titre pour la fin du mois, 4 ans après son deuxième album. Et jusqu'à présent, il n'y a que sur les réseaux qu'on pouvait suivre Angèle. Notamment quand elle reprend chez elle toute seule des tubes. Ce que vous entendez, c'est This Is et Théodora version Angèle. Dans le même esprit, elle avait aussi repris un tube de Justice. Ce n'est pas qu'un clin d'œil en fait. La vidéo a été partagée par le label du duo électro-français Justice parce que c'était aussi un indice. Le 27 février, on aura droit à un duo Angèle Justice, 3 minutes en français et en anglais. Le clip aurait déjà été tourné discrètement à Marseille notamment. Premier single d'un nouvel album, on l'espère, mais ça, pour le coup, ce sera pour l'automne. En attendant, 27 février pour le nouveau premier single d'Angèle de ce nouvel album, Angèle et Justice.
C'est Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Et c'est la voix de droite ce matin. Bonjour Jérôme Lavrieux.
Bonjour.
Jérôme, aujourd'hui, en Conseil des ministres, Amélie de Montchalin sera nommée à la Cour des comptes. Pour vous, c'est une bonne décision en fait?
Oui, pour moi, c'est une décision qui relève de la logique des institutions. En fait, c'est tout à fait normal de nommer un politique à la tête de cette institution. Personne ne s'est offusqué quand François Mitterrand avait nommé Pierre Joxe. Personne ne s'est offusqué quand Jacques Chirac a nommé Philippe Séguin. Donc c'est une décision qui m'apparaît totalement logique et fondée.
Et pourtant, vous l'avez vu, de gauche à l'extrême droite, les oppositions se sont toutes insurgées contre cette nomination. On pointe notamment son âge, 40 ans, parce qu'effectivement, elle pourra rester en poste jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ses 68 ans.
Alors ils veulent dire quoi? C'est qu'il faut faire tourner le poste plus souvent et qu'ils s'attendaient, eux, d'être nommés à l'usure? Non, on a une femme, première fois qu'on a une femme à la tête de cette institution extrêmement importante. Qu'elle reste jusqu'à ses 68 ans, bah oui, si c'est prévu comme ça. D'ailleurs, c'est une bonne chose parce qu'elle est inamovible. C'est-à-dire qu'elle pourra être ingrate vis-à-vis de ceux qui l'ont nommée, puisqu'on ne peut pas la virer. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir une femme et en plus compétente.
Au fond, pour vous, elle mérite ce poste. Ce qui vous choque, c'est l'hypocrisie.
Oui, parce qu'on les a pas entendus quand c'était un mâle blanc, un homme qui était issu de leur propre parti politique, qui était nommé, et ça posait aucun problème. Là, c'est une femme compétente qui, en plus jeune, et je trouve qu'il ferait mieux de s'en réjouir puisque elle pourra amener quelque chose du sang neuf dans cette institution bicentenaire.
Et une forme de liberté donc. Alors il y a d'autres critiques aussi sur la question du conflit d'intérêts puisque elle vient évidemment de délivrer son propre budget en quelque sorte. Ça, c'est une critique infondée aussi?
Non, parce que c'est le budget de la nation qu'elle a délivré, c'est pas le sien. D'ailleurs, ça ressemble pas à la copie initiale qu'elle avait faite. Et puis c'est pas la Cour des comptes qui va valider ou pas le budget. C'est la loi de règlement de finances publiques qui sera votée au mois de mars de l'année prochaine. Peut-être que les députés pourraient se renseigner sur les procédures.
Donc vous êtes anglo choqué par les cris d'orfraie que pousse la politique.
Mais c'est les professionnels des cris d'orfraie. Ils passent leur temps à ça. Et puis dans 3 jours, ils seront passés à autre chose. Mais c'est ça qui décrédibilise la politique, et notamment la politique de droite. Parce qu'on devrait savoir que c'est une logique institutionnelle de nommer cette personne à ce poste.
Et on devrait respecter donc pour vous les institutions.
Ah ben, si on aspire à diriger le pays, le meilleur des choses à faire, c'est de respecter les institutions.
Merci beaucoup Jérôme Lavrieux. Jérôme, voix de droite sur RMC, ancien député européen à UMP. Et on vous retrouve tout à l'heure dans l'émission d'Estelle Estelle Midi sur RMC. Il est 7h56. Dans un instant, le journal de 8h, les premiers mots de Gisèle Pellicot, l'ex-femme de Dominique Pellicot, reconnue coupable dans le procès des viols de Mazan. Elle prend la parole pour la première fois avant la sortie de son livre la semaine prochaine. Côté météo, on va vous parler de cette tempête qui va balayer le sud du pays. Et puis juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, vous allez nous parler d'une dette, celle de la Sécurité sociale.
Exactement, une dette peut en cacher une autre. Mais que va-t-on faire de la dette de la Sécurité sociale?
À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.